Chloé Lacasse qui chantait la chanson Café.
Oui, qui nous fait du bien, comme un bon café, ou presque. Alors, tout ça pour présenter mes invités qui sont en studio. Il s'agit de Karine Grondin et de Didier Réolon. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Qui avez eu la bonne idée de créer un livre intitulé tout simplement « Café », écrit en gros majuscule, en grosses lettres majuscules, et après, on peut lire « Le connaître, le cuisiner, l'apprécier ». Alors, ça dit tout. Merci d'être passé dans nos studios.
Merci à vous pour l'accueil.
Pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre sur ce sujet, sur le café?
Ben, c'est Didier, c'est vraiment Didier, hein, c'est son idée de base. Je suis rentrée dans le projet avec lui, mais c'est vraiment son idée, donc je te laisse.
C'est vraiment l'histoire d'une amitié avant tout, puisque Karine, ça fait longtemps qu'on se connaît, puisque moi je dirige une compagnie qui s'appelle donc Edica, qui est spécialisée dans les machines espresso et dans le café. Et par ce biais-là, on travaille avec Ricardo depuis très longtemps.
Ricardo, le vrai Ricardo qui signe la préface du livre.
Tout à fait,
Ricardo l'arrivée avec qui Karine a travaillé une quinzaine d'années.
Absolument, et qui nous a fait l'honneur et le plaisir de signer la préface. Et c'est à travers Ricardo que j'ai rencontré Karine il y a déjà quelques années. Et ça a tout de suite cliqué parce que Karine, c'est quelqu'un qui a de multiples talents, qui est très généreuse, qui est très accessible et très humble malgré la capacité de ce qu'elle maîtrise. Et donc, ça a trotté dans un coin de ma tête, tranquillement, de faire un projet un jour avec elle. Mais j'attendais que les choses s'alignent pour qu'il y ait vraiment une ouverture. Et nous, chez Edica, donc, on cherchait des projets de contenu intéressants pour offrir vraiment une plus-value à nos lecteurs, à nos auditeurs. Mm-hmm. Et à un moment donné, tout s'alignait. Donc, Karine n'était plus disponible de son côté. On a eu l'occasion de tester quelques recettes au café qui laissaient entrevoir jusqu'où ça pouvait aller. Et là, donc, a germé l'idée d'un livre qui serait aussi bien une mise en contexte pour les amateurs de café, pour leur donner des éléments qui leur permettent d'aller creuser un petit peu le sujet, et bien entendu, des recettes qui sont vraiment l'élément central de ce livre-là, qui leur permet de revisiter tous les goûts qu'ils pensent connaître, mais avec la dimension café, et donc d'aller parfaitement beaucoup plus loin.
Donc, mais avec juste 70 recettes, parce qu'au début, je me disais, je pourrais en faire 350. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel parce qu'on l'accompagne et on l'utilise dans les recettes. Donc, il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais on le fait dans les trois façons dans le livre. Mais ça a été tellement magique de juste, au quotidien, de découvrir et de redécouvrir le café à travers certaines saveurs et certaines combinaisons. Ça a été
Est-ce que c'est vous, Karine, qui avez fait le choix de toutes les recettes? Est-ce que vous les avez goûtées, les 70 au grand complet?
Oh, définitivement. Donc, on a fait beaucoup de tests, plus que 70. Mais ça, on les partageait, par exemple, parce que ça faisait partie de ces moments-là. Ce qu'on voulait créer dans ce livre-là, c'est vraiment des moments café, des périodes où est-ce qu'on pense café. Puis on recevait Didier, sa famille, donc sa conjointe, et on a vraiment eu on a pris du poids.
Oui, c'est bien résumé.
Mais pourtant, le café, ça ne fait pas engraisser.
Non,
mais
pas du tout.
Les recettes qui contiennent du café, il y en a certaines qui peuvent faire engraisser.
Puis surtout, c'est juste la quantité qu'on pouvait faire. Donc, on faisait des brunchs, on a fait des soupers, on a fait des déjeuners, on a tout
ah,
pris
oui.
les moments de la journée où est-ce qu'on utilise le café. Puis,
est-ce que ça a été long comme recherche, comme exploration?
J'ai quand vraiment même. Pris mon temps. Parce que normalement, on développe des recettes assez rapidement, mais mm-hmm. là, je voulais prendre une année pour mieux le connaître, puis vraiment l'exploiter à son maximum et faire des mariages assez naturels. Donc, je ne voulais pas forcer la chose, mais en même temps, faire découvrir des trucs. Des fois, de se challenger un petit peu
ouais.
sur ces saveurs-là.
Alors, si on parlait justement des recettes, on ne pourra pas en parler au grand complet, là, parce qu'il y en a 70, mais quelles sont les recettes qui vous... vos recettes coup de cœur?
J'ai commencé.
Le cake
salé au poireau. Parce que souvent, on pense sucré quand on pense café, mais ce n'est pas toujours le cas. Justement, je voulais trouver des occasions... d'en profiter avec quelque chose qui n'était pas du sucre nécessairement. Et le petit cake salé au poireau.
Avec un soupçon de café?
Non, pour le servir avec un
ça.
Café.
Oui,
dans
on
ce
l'accompagne
cas-ci,
avec...
c'est pour
ouais.
accompagner notre café. Et il y a une pointe de piment à l'intérieur. Il y a le poireau qui amène un petit peu de sucre. Un cake, c'est souvent un peu un mélange entre un pain et une omelette. Donc, il y a un peu ces deux saveurs-là. Ça se prépare en 10 minutes. C'est ultra rapide. La cuisson est longue, mais c'est très rapide à faire. Comme pour le brunch, la perfection.
Oui. Et vous, Didier, votre recette coup de cœur?
C'est pour ça que je rigolais, parce que c'est compliqué pour moi d'en nommer une seule. Mais
je comprends.
Je vais nommer la même que j'avais déjà nommée dans une autre entrevue, c'est celle du baba au rhum. Ah. Et pourquoi je vais prendre celle-là? Parce que ça m'amène sur un point très important, c'est que le contexte dans tout ce qui touche au café est super important. Nous, en tant que professionnels de café, on doit maîtriser l'aspect technique du café, donc on peut aller très très loin, et ça a été d'ailleurs dur de se limiter au type d'informations qu'on délivrait, parce qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais il ne fallait pas perdre les gens non plus, les lecteurs. Mais dans le café, moi je vois plus ça comme un art, avec une partie intangible qui est très importante, voire plus que la technique. Et donc la recette que j'ai préférée, c'est celle du baba au rhum, parce que le contexte, quand j'ai mangé cette recette-là, était juste parfait. C'était une belle journée.
Il semble que c'est compliqué à faire, un baba au rhum.
Vraiment pas. En plus, là, il y a baba au rhum et au café. Donc là, on goûte le café qui est imbibé dans le petit cake, le petit gâteau. Mais c'est vrai que le moment qu'on a passé ensemble...
Ouais. Une belle journée.
Ben, on était loin dans le projet, donc on n'avait plus le stress du départ où il y a beaucoup d'enjeux, il y a énormément de choses à gérer, on ne se rend pas compte là, mais c'est beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et on s'entendait bien, il y avait vraiment une fluidité extraordinaire dans le travail, on savait que le projet s'en venait à la fin. On était chez Karine, elle nous avait fait comme d'habitude des super plats à déguster, dont baba au rhum. Et donc, on était là, on était bien, on dégustait ce baba au rhum-là avec un délicieux café. Mmh. Et c'était juste parfait, quoi. Et je pense que ça résume bien la manière dont j'aime le café. C'est ce moment que ça crée et tout ce que ça contient de tangible, technique, mais aussi surtout d'intangible comme l'amitié et tout ce qui nous rassemble autour du café.
Vous en parlez avec beaucoup de poésie. Et pour vous, un bon café, c'est quoi exactement?
C'est très personnel, un bon café. Ouais. Donc, pour moi, le matin, me faire un latte avec de créer ce petit moment-là, avec même de faire de latte art juste pour moi, toute seule dans ma cuisine, ou le partager avec mon conjoint quand il est là, c'est ce petit moment-là que je préfère avec
lui. Alors, c'est un moment aussi.
Ah, tout le temps. C'est pour ça que même quand on ouvre le livre, les couleurs, la lumière... la façon dont c'est pris en photo, pour moi, c'était super important que ça crée toujours des petits moments. Il n'y a pas de stress, c'est pas le souper du mardi soir non plus, mais c'est ce moment-là qu'on prend en cuisine, en cuisinant même, dans la salle à manger, au salon, c'est toujours ces petits moments-là, puis on l'a vraiment créé comme ça. Quand on dit qu'on faisait des repas, c'était peut-être un peu dans l'extrême, mais c'était ces moments-là quand même qu'on voulait mettre en valeur.
Et vous, un bon café pour vous, Didier?
Alors, en préambule, je préciserai effectivement que c'est propre à chacun, donc il ne faut surtout pas que ça intimide. Il n'y a pas de bon café techniquement parlant. Encore une fois, on peut aller très très loin dans la maîtrise du café, dans l'extraction, dans la technique de torréfaction, dans tous ces sujets-là qu'on aborde d'ailleurs pour le livre, pour donner une petite idée. Mais je dirais que le meilleur café, c'est surtout celui qui, pour vous, va vous plaire à cet instant T. Ce ne sera peut-être pas le même le lendemain, etc. Mais du coup, pour répondre à la question, mon café préféré, c'est l'espresso, en fait.
L'espresso.
Que je bois en ce moment décaféiné, parce que j'essaie de limiter ma consommation. Il y a des très, très bons décaféinés. Il y a des artisans à Montréal qui sont extraordinaires, là, des torréfacteurs, micro-torréfacteurs en tout cas, qui vraiment valent le coup d'être découverts. Et c'est aussi quelque chose qu'on espérait, c'est que ce livre-là donne l'envie à notre auditoire d'aller creuser chez leur torréfacteur du coin, de poser des questions, de se renseigner sur le produit, parce qu'il y a vraiment une autre manière de consommer le café que de simplement en boire un pot le matin, brûlé, juste pour se donner du boost. Là. Ça, disons que c'est la manière de base, mais qui peut être bonne aussi. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans l'appréciation du café.
Est-ce que le café éthique, c'est quelque chose qui vous parle?
Oh, tellement. Absolument. Je pense que à travers Didier, j'ai vraiment aussi découvert... à quel point c'est important, pas que c'est important, mais à quel point ça peut être poussé justement pour aller chercher notre plaisir, mais de le faire éthiquement.
Tout à fait. Et puis en 2022, en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, puis on en parle beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de conscience qui émerge. Donc on est vraiment dans une transition. Et c'est la raison aussi pour laquelle on voulait faire cet ouvrage-là, c'est qu'on est à un moment clé où il est bon de donner plus d'informations aux gens pour qu'ils sachent ce qui est en train de se passer et jusqu'où on peut aller, et de leur donner l'envie de se renseigner sur la provenance de leur café, sur les méthodes de cultivation, la torréfaction aussi, de parler avec les gens près de chez eux. Donc on voulait créer du lien du grain à la tasse, mettons, entre les gens, entre eux, pour un maximum de plaisir au final, quoi.
Mais c'est quoi exactement un café éthique?
Ben, un café éthique, c'est, je dirais que déjà, c'est de se renseigner d'où il vient, qui l'a fait, qui l'a produit. On peut aussi se renseigner sur la manière dont il a été produit, parce que les méthodes de production ne sont pas les mêmes à travers le monde. Mais ça commencerait de là, et puis après, d'essayer de voir, au-delà de la traçabilité, que toute la chaîne respecte nos valeurs. Et c'est très difficile, parce que je dis ça, mais j'ai aussi la casquette d'un
directeur général
de compagnie. Et je sais très bien tous les enjeux commerciaux qu'il peut y avoir et qui nous mettent des bâtons dans les roues. On voudrait, nous, aller beaucoup plus loin dans cet aspect-là, mais il faut se rendre compte aussi que d'un point de vue pragmatique, on ne peut pas aller trop vite non plus parce qu'on est bloqué par des enjeux d'affaires, tout simplement. Mm-hmm.
Alors, il y a de très, très belles photos. Vous disiez tantôt que les photos avaient été pensées dans... Vous vouliez un contexte de calme. Vous voulez un contexte qui nous donne envie de faire la recette et, mmh. et de boire le café, d'en profiter. Moi, j'ai la page du cannelé, là, qui déjà est très, très tentante. Et vous disiez tantôt, Karine, qu'on n'associe pas nécessairement les mets salés au café, mais un œuf bacon avec un café, c'est assez délicieux.
C'est un mariage parfait, effectivement.
Parfaitement heureux.
L'œuf est un mariage... surprenamment intéressant. Il y a aussi un gruau salé avec œufs et champignons et les épinards. Mm-hmm. Et c'est un mariage, encore une fois, là, qui fond dans
naturel.
La bouche. Exactement.
Il y a quelque chose, il y a des recettes quand même qui surprennent, comme le café aux œufs. Un café aux œufs. Prendrais-tu un café aux œufs?
Dit comme ça, non.
Mais si on dit à quelqu'un, je vais vous offrir un café vietnamien,
ouais.
On est un peu plus tenté. C'est étonnant comment, des fois, des cultures aussi différentes que l'Italie et le Vietnam vont avoir des saveurs qui se ressemblent beaucoup. Si on pense justement au tiramisu, qui a les œufs aussi avec le café. Et là, ici, le café vietnamien, c'est une mousse de jaune d'œuf et de sucre qui est servi sur le café. Donc, ça revient à peu près au même... On touche aux mêmes saveurs, aux mêmes appels, mais de façon complètement différente, évidemment. Mais c'est à peu près les mêmes saveurs. C'est super intéressant de le voir comme ça.
Et moi, je suis pas sûre si c'est ma recette coup de cœur, mais celle qui m'attire particulièrement, c'est le flan parisien au café.
Oui.
À la page 126.
Le flan parisien est sûrement le dessert que je demande à mon chéri à chaque fréquent de mes anniversaires.
Ah oui?
Et là, je l'ai transformé au café parce que le flan, encore une fois, on parle des œufs qui sont cuits dans une croûte bien, bien dodue. C'est une tarte qui est en fait un flan, mais c'est dans une tarte un peu assez épaisse, exactement, autour. C'est vraiment excellent.
Bon, alors, il y en a plein d'excellentes recettes, vous les disiez tantôt, 70. C'est un beau livre. Il y a quelque chose d'encyclopédique aussi, parce que vous remontez aux origines du café qui a été découvert en Éthiopie.
Selon la légende, oui. C'était un heureux hasard, un petit peu comme le sucre d'érable ici, mais souvent, c'est les gens qui étaient là les premiers, qui vivaient ça au quotidien. Et là, donc, ce serait dû à des chèvres qui, un jour, ont décidé d'aller brouter un caféier. Et qui ont commencé à être très excités, mettons, ce qui a piqué la curiosité du berger, et qui de là a creusé et jusqu'à mener à ce qu'on connaît actuellement.
Bon. Ouais. Alors, ça, c'est grâce aux chèvres qu'on profite du café. Quelques questions à rafale pour terminer. À vous, Karine Grondin et Didier Réolon. Combien de café buvez-vous par jour?
Un, deux quand on reçoit les amis.
Pour ma part, j'essaie de me limiter à un caféiné et après les décas, je peux en boire 5, 6 dans la journée.
OK, alors vous êtes celui qui en boit le plus,
oui.
Mais des décaféinés. Il y a des bons cafés décaféinés aussi?
Absolument. Alors ça, vraiment, je vous conseille d'aller voir les micro-torréfacteurs montréalais qui ont là aussi des productions éthiques, toujours, on vérifie, mais qui ont un savoir-faire qui vaut vraiment le détour. Je vous promets qu'il y a des décaféinés qui sont bien meilleurs que des bons cafés.
Ouais. Et les décaféinés, ça n'a rien à voir avec les cafés en poudre, les cafés instantanés.
Ah,
là.
Non, les méthodes ont vraiment évolué. Donc, il y a des méthodes qu'on appelle suisses, entre autres, qui permettent de décaféiner le café juste à l'eau. Donc, c'est complètement sans additifs chimiques. Ça respecte le grain, le produit, et ça donne un résultat final qui est extraordinaire.
Alors, très beau livre. Ça a été une belle rencontre. Café, le connaître, le cuisiner, l'apprécier avec Karine Grondin et Didier Réolon. C'est publié aux éditions La Presse et vous serez au Salon du Livre pour rencontrer les visiteurs et parler café et recettes qui contiennent du café ou qui accompagnent bien le café.
Absolument.
Merci.
Le 26 et le 27 en matinée.
Parfait, ouais. Ça s'en vient novembre, bien sûr.
Novembre.
Merci.
Merci.
Merci à vous.